Totem, le club sang et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogeux.
La soirée qui se poursuit avec le club sang et or. Sur Totem, chaque semaine, on revient sur l'actu du Rodez Aveyron Football, le match du week-end passé, et on se projette également sur les prochaines rencontres avec Jean-Charles Virlogeux. Bonsoir.
Bonsoir.
Notre invité a récemment été nommé capitaine en attendant le retour de Brad Danger. C'est le milieu de terrain ruthénois, Lorenzo Rajo. Bonsoir, Lorenzo.
Bonsoir.
Une émission, désolé pour la petite bafouille.
Lorenzo, Lodge, vous avez fait un petit
mix. Oui, en fait, voilà, j'ai pris un peu d'avance sur votre question, Jean-Charles. Une émission en deux temps, donc une première partie sur Grenoble, évidemment le match qui s'est déroulé ce week-end, et puis on aura l'occasion de s'intéresser un petit peu à vous, en particulier Lorenzo. On commence par Grenoble, Jean-Charles.
Oui, un match où on peut dire que les Isérois sont bien payés quand même, avec ce 2-1 remporté donc par Grenoble. Rodez n'a pas tout bien fait, évidemment, mais aurait probablement mérité de repartir du stade des Alpes avec quelque chose. C'est aussi votre avis, Lorenzo ?
Oui, beaucoup de regrets après ce match.
Un match qui a connu donc pas mal de déchets jusqu'aux deux buts en fin de la première mi-temps. Pas mal de déchets techniques. Est-ce que les conditions étaient particulières, selon vous ?
Il faisait froid, très froid. Et, c'était un peu le premier match où il faisait aussi froid et la pelouse était correcte sans être top non plus.
Ouais, justement, le froid, alors même si on y est préparé lors de l'échauffement, au niveau des premières minutes, les premières sensations officielles, ça donne quoi, ça joue ?
Non, après, on était habitué dans la semaine, les entraînements.
Oui, donc, on habite à Rodez, mais si Grenoble en altitude, c'est peut-être un petit peu plus haut, il y a eu quand même quelques températures aussi frisquettes les matins pour s'entraîner.
Oui, après là, je pense que c'était proche de zéro quand même.
2 degrés au coup d'envoi, ça a été annoncé.
C'est vrai que le stade des Alpes, en plus, est réputé pour être une glacière, et là, vous êtes arrivé à la bonne époque, en plus.
Avant ces deux buts, est-ce que vous diriez, Lorenzo, que ces deux équipes-là, Rodez et Grenoble, s'étaient bien neutralisées ?
Oui, c'était un match où les deux équipes arrivaient bien à fermer les espaces. Bah, d'ailleurs, il n'y a eu que des buts sur coup de pied arrêté. Ouais. Pas énormément d'occasions des deux côtés dans le jeu. Nous, je pense qu'on a un peu plus d'occasions que dans le jeu, mais ouais, on peut dire que c'était un match assez fermé quand même.
Petite remarque, tiens, on a vu pendant la première mi-temps quelques passes latérales dans la moitié de terrain de Rodez, interceptées ou pas loin de l'être par l'adversaire. Est-ce que c'est une prise de risque assumée, c'est une erreur, ou c'est juste on fait un focus là-dessus qui n'a pas lieu d'être ?
C'est peut-être, je ne sais pas si ça n'a pas lieu d'être, mais après nous on veut repartir de derrière. Je pense que eux, c'était les passes qu'ils cherchaient aussi, donc peut-être qu'on aurait dû jouer un peu plus dans le dos de Grenoble en première mi-temps.
Les passes à plat, vraiment à plat, hein, pas du tout en diagonale, c'est autorisé ça ou
Faut qu'elle soit ici.
Ok. Alors, en tout cas, c'est Grenoble qui a trouvé le chemin le premier sur corner, sur un duel clairement perdu. Hein, et le deuxième sera un peu pareil. Ça n'a pas plu, c'est le moins qu'on puisse dire, à Didier Santini. Il avait la mine des mauvais jours comme rarement après le match.
Agacé de prendre deux buts sur coup de pied arrêté, de corner. Naïveté, si on veut exister et aller plus haut, on n'a pas le droit de donner autant. On a bien joué, c'était un bon match des deux équipes, c'était costaud, on n'a pas été mis en difficulté spécialement. On a fait ce qu'on a voulu dans le jeu aussi, mais on s'est créé des situations. Mais on ne peut pas exister en étant aussi naïf défensivement sur le coup de pied arrêté, quoi. C'est tout le monde. C'est collectif, après il y a toujours des manques, mais il faut plus d'agressivité, C'est assez récurrent, on le prend à Quevilly, on se prend à Laval, on se prend des buts stupides sur des blocages naïfs. Voilà, il faut grandir beaucoup plus vite. On aurait pu peut-être jouer un peu plus de folie, un peu plus vers l'avant par moment, surtout en première mi-temps. Après, ils ont reculé un peu plus. Mais voilà, après, je suis agacé de leur dire qu'ils font un bon match, que c'est costaud, qu'il y a un bon niveau, qu'il y a contre une belle équipe qui est troisième ou quatrième au championnat et que tu perds sur deux coups de pied arrêtés, c'est pas normal.
Alors, on y reviendra sur ce chantier défensif, hein, Lorenzo. C'est vrai qu'en plus, on le voyait arriver un peu gros comme une maison, ce but, parce que Grenoble pressait de plus en plus, se montrait plus dangereux depuis quelques minutes. Du coup, vous avez eu droit à la gueulante habituelle, j'allais dire, du coach à la mi-temps ou à la fin du match, ou pas vraiment ?
Un petit peu à la fin du match, hein.
Oui. Parce qu'à la mi-temps, c'est un partout.
Oui, vous revenez, du coup, c'est vrai que ça change la perspective, évidemment.
Ouais, on faisait une première mi-temps correcte. Après, je pense qu'on a fait une meilleure deuxième mi-temps que la première mi-temps. Mais
Mais pas payé.
Non, des détails qui nous font perdre ces matchs.
Ouais. Alors c'est vrai que Rodez ne passera pas beaucoup de temps à Gamberger, parce que effectivement vous allez revenir au score dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. C'est Arconte qui a été le plus juste hein, devant le but. Il y avait eu également un bel enchaînement, contrôle de poitrine, frappe qui n'avait pas abouti. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de ratés dans ce match. Arconte en a aussi raté hein, d'ailleurs. Sur ce but, il a été averti après sa célébration. Alors, il s'est dirigé vers la caméra pour une séquence clin d'œil à Bradley Danger et à sa compagne. Ce que les supporters ont pris pour une provocation. Est-ce que vous avez compris, vous, exactement ce qui s'est passé, vous qui étiez sur le terrain?
Bah, moi, j'ai vu qu'il faisait un clin d'œil, comme vous l'avez dit, pour Brad et sa femme. Mais, après, comme vous l'avez dit, le public l'a pris pour une provocation et Tahiri a été sanctionné d'un carton jaune stupide.
On comprend exactement ce qui se passe à ce moment-là sur le terrain ou même pas?
Bah nous, oui. Après, eux, je me mets à leur place. Je pense qu'ils ne le savent pas.
Donc, les supporters?
Ouais.
Ouais, bon, alors après, quand vous mettez votre pouce dans la bouche et que vous mettez le ballon sur
Oui, c'est clair. En plus, ce n'est pas la première fois qu'une célébration de ce type est effectuée. Enfin, j'ai envie de dire, on n'est pas habitué, mais pas loin. Quand il y a des heureux événements comme ça, c'est presque monnaie courante de soit faire un clin d'œil à son coéquipier, soit de se faire le clin d'œil soi-même. Là, on n'a pas l'impression que... Enfin, c'était pas dissimulé, je veux dire, c'était facile
après,
à comprendre.
Après, je suis pas sûr que l'arbitre ait bien vu la scène. Hey. Du coup, il a pris ça pour un chambrage et maintenant, il n'y a pas le droit de chambrer, donc il lui a mis un jaune.
Surtout caméra était là-bas.
Ça pose la question, d'ailleurs, de la position de ces caméras. Alors, elles sont forcément à un endroit où, derrière le but, où on va célébrer, où il y a un regroupement, mais... Pour parler de choses qui sont revenues dans l'actualité judiciaire avec le match de Bordeaux la saison dernière, c'est un peu parti comme ça aussi. Se tourner vers la caméra et c'est pris pour un chambrage par les supporters. Soit il faut que les supporters fassent preuve d'un peu plus de discernement dans leur réaction ou changer la position de ces caméras, je sais pas, mais... C'est une vraie question.
Avec un degré un peu plus différent avec Bordeaux, puisque le mec a quand même décidé de descendre sur la pelouse. Là, ils sont restés dans les tribunes. Ah bah même s'ils l'ont pris en tant que chambrage, ils sont restés quand même dans leur tribune.
Ouais. Alors, en tout cas, un partout, donc, c'est, vous le disiez, Lorenzo, Rodez qui a été le plus entreprenant et convaincant en deuxième période. Mais il a toujours manqué quelque chose dans l'avant-dernier geste. Déjà, en première période, c'est vrai qu'il y avait eu votre tête, qui a été une des plus belles occasions hein, pour Rodez. Vous qui aviez marqué de la tête d'ailleurs en Coupe de France, vous y prenez goût?
Ouais, après j'essaye d'arriver au bon moment dans la surface et si le ballon arrive sur ma tête, il faut que je mette la tête. Ouais.
Voilà, elle n'est pas simple, hein, reprise de la tête un peu plongeante.
Ouais, c'est l'angle, ouais. J'ai pas beaucoup d'angle.
Ouais.
Après il fait l'arrêt, mais ouais, j'ai pas beaucoup d'angle pour le moment.
Il y a un défenseur sur votre droite, le gardien qui revient bien justement pour boucher l'angle. Bon, le geste est beau, ça méritait des points pour le geste, malheureusement il y avait quand même le gardien sur la trajectoire. On parlait de ce match contre Grenoble et malheureusement de la défaite des Ruthénois. On va continuer d'en parler. Grenoble qui va réussir donc le bon coup hein, dans cette deuxième période grâce à Postolacci sur une action pas mal cafouillée à la fin de ce corner frappé de la gauche vers la droite. Il y a du monde pourtant dans cette surface de réparation, mais on n'arrive pas à sortir ce ballon côté Rodez. Comment vous ressentez l'action? Parce que vous y êtes dans cette surface de réparation.
Bah... Au début, je vois un mat par terre, donc je me dis qu'il y a eu quelque chose. Quoi. Mm-hmm. Après, lui, il dit qu'il y a faute. Faute ou pas faute, ça fait but à la fin. Mais ouais, c'est dommage qu'on n'arrive pas les premiers sur les duels.
Ce qu'on a envie de dire, c'est presque dommage qu'il arrive à faire trois touches de balle sans qu'il y ait un Ruthénois qui sorte dessus. Quoi.
C'est vrai.
C'est ça le problème.
Et c'est vrai que bah, quand on voit ce but, on repense forcément aux mots de Didier Santini qui parlait il y a quelques semaines d'excès de confiance sur certaines phases défensives. Petite piqûre de rappel.
C'est plus sur des attitudes, pas par rapport à leur qualité, c'est plus trop confiance. Trop confiance et des fois pas de prise de risque. Pas de prise de risque, c'est quand tu dois sortir sur un quelqu'un, cadrer, et puis qu'il l'obligeait à faire une passe et peut-être faire une erreur et que derrière ça va être corrigé par ton partenaire. Donc ça fait une chaîne, ça s'enclenche. Et puis nous, à un moment, c'est très passif. Mais donc, on a des attitudes, des fois, de passivité ou de trop confiance en son partenaire. Donc, j'ai pas besoin d'aller là. Qu'ils se disent, ouais, c'est pas où c'est pas grave, petit, il marquera pas. Ça, il faut le corriger, on le travaille. Mais là, c'est plus difficile que de la tactique, quoi.
Il peut tirer, il marquera pas. Eh ben, on jurerait que si on était dans la tête de certains joueurs dans la surface sur ce deuxième but, c'est ce qu'ils se sont dit. En ne se jetant pas sur le ballon samedi. C'est ce que vous pensez aussi, Lorenzo?
Non, on peut pas penser ça, mais après, c'est comme ça, hein. Faut passer à autre chose maintenant. rectifier ses erreurs.
Au final, on a un peu l'impression que c'est une rechute, puisque Rodez n'avait pas pris de but contre Guingamp et contre Liffré en Coupe de France et en championnat. Est-ce que c'est un problème de prendre des buts, selon vous, Lorenzo?
Ah oui, forcément.
Ces buts-là, en tout cas, oui.
Ouais, après, si c'est des buts ou c'est des actions construites par l'adversaire ou on n'arrive pas à nous mettre hors de position, il y aura bien joué. Mais là, c'est vrai que les buts qu'on prend, c'est beaucoup d'erreurs.
Et votre coach disait, c'est plus compliqué que de la tactique. Comment on peut le bosser, ça, finalement?
C'est peut-être de la concentration, toujours être concentré, c'est des phases arrêtées, donc on sait que peut être mis en danger, mais je sais pas, si on avait la recette, on gommerait ces choses facilement, mais on est une équipe jeune, faut répéter sans cesse les choses.
Pour que ça devienne un réflexe d'intervenir, finalement. Parce qu'il y a aussi, vous disiez, une faute, et le défaut, parfois, c'est de s'arrêter de jouer quand il y a un joueur au sol, alors que si l'arbitre ne siffle pas...
Après, c'est aussi ce qui amène les corners aussi, c'est des petits détails qu'il faut qu'on corrige, parce qu'il y a des choses à corriger avant le corner aussi.
Est-ce qu'il peut y avoir un défaut de gabarit?
Non, je pense pas. C'est des faux débats, ça, je pense, parce que c'est quand même dans le duel, on est quand même une équipe qui gagne pas mal ses duels, agressive, donc je pense pas que ce soit un problème de gabarit, c'est plus de l'engagement sur ces phases-là.
Ok.
On soulignera que c'est vrai que l'entrée en fin de match de Postolacci a fait du mal, à ne pas confondre avec Marcel Patulacci du sketch des Gardiens de la Paix. Gardiens de la Paix avant tout, selon les inconnus. En tout cas, sur le plan offensif aussi, il n'y a pas eu assez d'occasions tranchantes. On va dire 11 tirs, dont 4 cadrés. C'est pas mal du tout comme statistique. Mais on va dire que le frisson est quand même rarement passé sur le but de Brice Maubleu. Au final, du coup, le contenu dans le jeu, c'est probablement meilleur Grenoble, surtout en deuxième mi-temps. Mais la vérité des deux surfaces vous porte préjudice. Est-ce que ça vous préoccupe, ça? Est-ce que c'est, on va dire que c'est un coup de moins bien pour Rodez?
Oui, il ne faut pas se cacher. C'est les résultats dernièrement en championnat sont moins bons. Les contenus sont corrects. Là, c'était bien, mais il faut qu'on retrouve cette folie, cet talent offensif. Et après, corriger ses erreurs, mais ça fait partie du jeu.
Alors, Kylian Corredor a évoqué aussi, pour le site de Rodez, ce coup de moins bien. Les joueurs offensifs ont aussi leur part de responsabilité, mais l'attaquant ruthénois était quand même très agacé par les buts encaissés.
Dans le jeu, on fait des bonnes choses, on se crée des occasions. Après, ça ne peut pas rentrer, on ne peut pas mettre 3 buts tous les matchs. Là, on a manqué d'efficacité devant. On doit marquer un ou deux de plus. Après, il va falloir gommer les erreurs. On n'a pas le droit de prendre 2 CPA. On n'a pas le droit de prendre 2 buts à Grenoble à l'extérieur sur CPA. C'est impossible. C'est sûr, on est dans une série négative. Il faut s'en sortir. On sait que la saison est longue, que c'est compliqué. On savait aussi qu'on allait avoir une période de moins bien. C'est compliqué de tout gagner ou en tout cas de pas tout perdre. On aura à cœur chez nous de retrouver la victoire. Pour retrouver une dynamique positive.
CPA, coup de pied arrêté, pour ceux qui ne connaîtraient pas le jargon. À ne pas confondre avec CPO, c'est bien le nom du robot dans Star Wars, non?
Écoutez, je vous fais confiance là-dessus. J'espère que votre culture est bien meilleure que la mienne.
Bon, en tout cas, sur le clean sheet de Guingamp, votre coach avait regretté le manque d'allant offensif, mais défensivement, la copie avait été très propre. Là, on retombe dans les travers défensifs. Et sans arriver à empiler les buts, effectivement, Kylian le reconnaissait. Est-ce que vous diriez que, du coup, maintenant, c'est devenu un dilemme de bien défendre et de se projeter suffisamment quand même? Est-ce que c'est compliqué d'arriver au bon équilibre?
Non, mais là, défensivement, c'est un très bon match. C'est juste des phases arrêtées, mais dans le jeu, défensivement, il n'y a rien à reprocher à l'équipe.
Très peu d'occasions concédées dans le jeu.
Faut différencier quand même les deux choses.
Donc pas... c'est pas un souci de se projeter, c'est pas de se découvrir, voilà.
Non, mais là, on va dire qu'on a pris 2 buts, donc on va dire qu'on a fait un mauvais match défensivement, mais non, justement, on a fait un très bon match, on était très solide. On prend des buts sur des phases arrêtées, faut différencier les deux choses. Mais non, faut qu'on trouve le juste milieu, rester solide comme on a été sur ces deux derniers matchs dans le jeu, et amener un peu plus de folie, c'est tout.
Et donc se perfectionner dans ce fameux registre des coups de pied arrêtés, on a bien compris.
Oui, ça c'est clair, parce que depuis le début de la saison, on prend beaucoup de buts là-dessus.
Au classement, Rodez donc reste à équidistance entre le podium et la zone rouge, 9e avec 20 points. Alors il n'y a pas le feu au lac, mais on sent que Rodez donc est dans le dur, on l'a entendu avec les mots de Kylian Corredor. Ça tombe bien, on va s'intéresser à la prochaine rencontre.
Le club sang et or sur Totem.
Votre prochain adversaire joue en ce moment même contre Pau. D'ailleurs, si dans ce match, il y a un vainqueur, vous passerez derrière eux au profit du vainqueur du soir, car Pau est donc 10e avec 19 points, Concarneau 11e avec 18 points. Si évidemment ça gagne, ça repasse devant. Pas de nom ronflant dans cette équipe de Concarneau, hein, entraînée par Stéphane Lemigan. Les noms un peu connus du grand public, Brian Pelé, joueur passé par Troyes ou encore par Guingamp. Et le meilleur buteur du club, Pape Ibnouba, 5 buts, 2 passes D, passé par les Chamois Niortais ou encore Le Havre et Pau, qui a donc une belle expérience de Ligue 2 avec 85 matchs et 23 buts dans son son escarcelle. 5 donc depuis le début de la saison en 10 matchs. Pas de grosse valeur marchande non plus, mais un certain Julien Célestine, qui est d'ailleurs le joueur le plus coté de Concarneau, avec une valeur estimée à 600 000 euros de valeur marchande. À titre de comparaison, Bradley Danger côté Rodez est affiché proche du million, et vous, Lorenzo, eh ben, selon le même site Transfermarket, vous avez la même valeur marchande que Julien Célestine. Je ne sais pas si ça vous sert ou pas, mais en tout cas, c'est dit.
Ça vous fera plaisir, tiens, de recroiser Julien Célestine.
Ouais, après ça, le terrain... Ça
sera un chose, peu moins.
Mais... Oh, il a toujours été sympa sur le terrain.
Surtout quand on l'a avec nous. Contre peut-être un peu moins.
C'est ça, ça va faire bizarre, en fait, de se retrouver dans la position de l'adversaire contre lui.
Est-ce que justement, de le connaître un peu, ça peut le déstabiliser? On sait comment il joue, on sait comment il est. Est-ce que ça peut rentrer en compte ou...
Bon, je ne sais pas, je ne vais pas parler à sa place, mais... Après, nous, on le connaît, donc... Après, l'équipe a pas mal changé depuis le temps, mais...
Faut peut-être le mettre en garde, certains de vos coéquipiers, parce qu'on sait qu'il a tendance à essayer de chauffer un peu. Hein.
Ouais, après, c'est son jeu, mais est-ce qu'il le fera, je sais pas. Après, nous, on va se prééquiper de nous, déjà, ce sera déjà pas mal.
Rendez-vous donc ce vendredi avec le coup d'envoi qui sera donné à 19h. Mais on va continuer justement le petit focus sur Concarneau après un début plutôt compliqué. Certainement l'apprentissage de ce début de saison de Ligue 2. Pas de victoire avant la 6e journée contre Quevilly. Ça va un peu mieux avec notamment leur tableau de chasse Laval, le leader, Ajaccio le 7e ou encore le fameux 4-3 contre Dunkerque. Dans les 4 confrontations qu'il y a eu entre les deux clubs, une victoire de Rodez, une de Concarneau, 2 matchs nuls. Par contre, dans les confrontations entre coachs, l'avantage est pour le coach de Concarneau qui s'est imposé 2 fois contre Didier Santini lorsque ce dernier entraînait le Stade Briochin. Et le Ruthénois ne s'est imposé qu'une seule fois. Il était alors entraîneur de Dunkerque contre Créteil en 2017.
Les confrontations entre Rodez et Concarneau, je ne sais pas quand ça remonte.
C'était en national.
Ah oui, voilà. Okay.
Pour se remettre donc les compteurs à zéro, eh ben rendez-vous ce samedi contre Concarneau avec Rodez qui sera donc sur la pelouse du Stade Polignon. Coup d'envoi à 19h pour cette 15e journée de Ligue 2. Voilà pour cette première partie du Club Sang et Or. Deuxième partie du Club Sang et Or dans un instant. Vous restez avec nous, Lorenzo, évidemment. On va s'intéresser à vous plus en détail.
Le Club Sang et Or sur Totem. Totem, le Club Sang et Or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogieux.
Deuxième partie du Club Sang et Or. Merci d'être avec nous sur ce podcast du Club Sang et Or. Deuxième partie avec Lorenzo Rajot et Jean-Charles Virlogieux. Lorenzo qui nous disait il y a un instant, il n'y a plus le petit rendez-vous avec la voix du président. Si, si, ça s'appelle la question à la con et ça arrive d'ici quelques instants.
Ce sera une exclusivité web cette semaine.
Exactement, vous avez raison de le préciser, Jean-Charles. Rodez qui tire quand même encore le bénéfice de son bon début de saison avec son bel automne notamment. Vous n'êtes pas étranger, Lorenzo, aux performances de Rodez depuis le début de la saison, parce que vous êtes presque, on peut le dire, devenu un joueur incontournable de cet effectif avec des belles stats depuis le début de la saison. Vous jugez comment votre début de saison, Lorenzo?
Pas mal.
Pas mal. Sur un bulletin de notes, ça veut dire quoi, pas mal? Parce qu'en termes de ratio passes décisives buts, il n'y a qu'un seul joueur qui fait mieux, c'est Kylian Corredor.
Je sais pas, faut que j'aille une note, c'est ça?
Ouais, ou comment vous le jugez vraiment? Est-ce que par rapport aux autres saisons,
vous êtes d'accord?
Incontournable, oui.
Ça, c'est vous qui le dites.
Depuis le début... coach aussi, vous êtes très très rarement sur le banc.
En tout cas, depuis le début de votre aventure ruthénoise, c'est votre meilleur début de saison.
Ouais, oui.
Ça s'explique? Il y a des explications à apporter ou pas forcément?
Bah, l'habitude, le fait d'enchaîner les matchs. Ouais, c'est...
La confiance, quoi.
Ouais, c'est les explications.
Ok.
Ouais, c'est vrai qu'il vous a fallu du temps pour devenir le joueur que vous êtes aujourd'hui dans le jeu de Rodez. C'est une question de style de jeu? Vous diriez que c'est une question de physique, de mental?
C'est un peu un tout, mais Et ouais, je pense que le style de jeu, ça fait partie du fait que je puisse m'épanouir dans cette équipe.
D'être un peu plus haut ?
Oui, mais...
Même pas ?
Si, bah, le fait d'être un peu plus haut, c'est... Forcément, non, je suis plus proche de la surface, donc je suis plus amené à tirer ou à être à la conclusion de certaines actions. Mais d'abord, mon rôle, c'est de trouver des décalages, participer au jeu.
Ouais, parce que parfois vous décrochez aussi, parce que vous aimez bien les passes en profondeur. Il y a un peu les deux Lorenzo, quoi.
Ouais, c'est...
Le bas, le haut.
C'est ça.
Ouais. Et c'est du coup cette capacité à se projeter vite, enfin cette volonté de se projeter vite dans le jeu aussi qui vous plaît, j'imagine.
Ouais, après, c'est les particularités de notre style de jeu, de notre effectif. On a des joueurs qui vont très vite devant et sur les côtés, donc faut qu'on s'en sert.
Ouais. On a l'impression que ça, c'est vraiment un jeu qui vous permet de vous épanouir pleinement. On a le sentiment que vous êtes, si on devait comparer avec les saisons précédentes, plus créatif en particulier.
Ouais, c'est pas faux.
Avec des gestes parfois un peu surprenants.
Ouais, après, ça, c'est de l'instinct, mais... Mm-hmm. Ouais, ça fait partie de la confiance aussi, oui. Sûr.
À l'image d'une louche qu'on a pu voir à Paul Lignon, notamment.
Louche,
dans un premier temps, louche, qu'on a pu voir à Paul Lignon. Ça, c'est vraiment le signe que le joueur est en confiance.
Ouais.
Derrière finir. Donc, ça veut donc dire que là, il y a eu des petits déclics qui vous ont permis justement de vous intégrer à merveille dans le schéma de jeu de Rodez, quoi.
Ouais, mais pour moi, c'est le fait de pouvoir enchaîner les matchs qui me permet de faire ça.
Ok. Donc c'est du rythme, c'est engranger du rythme et ensuite montrer toutes les qualités sur le terrain.
Ouais, après le fait d'être assez régulier, ça permet de capitaliser en confiance. Et voilà, après aussi les connexions avec les joueurs, on se trouve plus facilement. Avec l'habitude, c'est sûr, ça met un peu de temps d'avoir un projet, mais donc il faut essayer de garder les mêmes joueurs et après apporter du plus. Mais je pense que c'est un tout.
On vous voit souvent réaliser également, notamment dans la profondeur pour les attaquants, une petite demi-volée pied gauche qui part assez facilement de votre pied. Est-ce que ça, c'est un geste inné ou est-ce que c'est un geste que vous travaillez quasiment tous les jours à l'entraînement pour y arriver le jour J ?
Non, je le travaille, mais je travaille pas tous les jours, mais j'aime bien ce type de geste. Hein.
On a l'impression que c'est votre tasse de thé. Est-ce qu'il y a d'autres gestes comme ça ? C'est votre geste en particulier, celui que vous aimez bien travailler ?
Non, je sais pas, ça me vient pas comme ça.
Donc, c'est pas un geste favori, oui.
Ouais, non.
C'est à l'instinct après. Une fois sur le terrain, c'est à l'instinct.
La bicyclette.
Ouais, c'est à l'instinct.
Bah, la bicyclette, c'est pas évident. Hein.
Et ouais, bien sûr.
C'est pas évident.
Il y en a eu aussi. Tiens, on a une question auditeur pour Lorenzo. C'est Julien qui nous l'a posé sur notre page Facebook, sur Messenger. Qu'est-ce que ça vous fait de porter le brassard de capitaine comme ça a été le cas ce week-end ?
Bah, c'est une reconnaissance, une fierté, mais le capitaine de l'équipe, ça reste Brad.
Même mais si ça fait quand même deux fois que vous vous enchaînez avec le brassard.
Ouais, en coupe et en championnat, ouais. Mais après, ça me fait plaisir, mais c'est pas ce qui me préoccupe le plus.
Ça reste une marque de confiance.
Ouais, bien sûr. Je reconnais la confiance que le coach me donne et j'essaie de lui rendre au maximum.
Donc ça veut dire que tant que vous aurez le brassard autour du bras pour l'aventure en Coupe de France, on gagne. En tout cas, pour l'instant, c'est le cas.
Pour l'instant, c'est le cas.
Pour l'instant, c'est le cas avec 100% de victoire en Coupe de France.
Et ça vous plaît, cette fonction ?
C'est pas ce que je recherche forcément, mais ouais, après, c'est mon rôle un peu au quotidien avec le groupe, donc voilà, mais Brad est un très bon capitaine.
Donc votre coach vous a pas choisi par hasard, ce dont on ne doutait pas, évidemment, mais... On peut peut-être enchaîner avec la question à la con.
Bah, bien sûr.
Notre auditeur sera d'ailleurs ravi qu'on n'ait pas choisi la sienne, hein.
oui, parce que dans ce rendez-vous-là, effectivement, c'est le rendez-vous préféré de Jean-Charles Vire-le-Jeu.
Je n'ai pas dit que tu étais un con. Hein. Je dis que globalement, la question, elle est con.
Et évidemment, vous avez reconnu la voix de votre président. On en a parlé il y a quelques secondes. La question de Jean-Charles, on vous écoute.
Oui, alors on a un petit doute sur vos surnoms. On ne sait plus trop comment vous appeler. Est-ce qu'il faut vous appeler Lutch ou est-ce que maintenant, il faut vous appeler Bip Bip ?
Non. Lutch, c'est mieux.
Alors,
on va rappeler pourquoi.
Voilà, on va expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une stat qui est sortie. Comme quoi. Vous seriez allé à une vitesse de 36 km/h en courant. Est-ce que vous l'avez vu passer déjà cette stat ?
Ouais.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette stat ?
Moi, je pense que c'est une erreur.
Parce que du coup, le club nous a dit justement que c'était pas forcément le joueur le plus rapide de l'équipe, que vous n'étiez pas le joueur le plus rapide de l'équipe, et pourtant, flashé donc à 36 km/h lors d'un match de Ligue 2.
Après, c'est pas les GPS que l'on a sur nous pendant les matchs, c'est les données de la Ligue 2. Mmh. Donc, je sais pas sur quoi ils se basent, mais...
Oui, le club n'avait pas cette stat-là, ouais. Ne corrobore pas cette stat. Donc vous, vous vous rappelez pas avoir couru, si tant est qu'on puisse se rappeler avoir couru à 36 km/h, c'est pas comme en voiture, hein, où on a...
Il n'y a pas de compteur.
Oui, il n'y a pas de compteur en face de soi. Vous, vous vous dites pas à un moment, ouais, j'ai couru à 36 km/h.
Non, je pense que c'est une erreur de la Ligue.
Bon, il faudra qu'on leur fasse remonter quand même.
On vous en a quand même parlé, justement, ce passage.
On a pas mal chambré là-dessus. Ouais.
À chambrer carrément, ouais. Alors que normalement, c'est une mise en avant. Enfin, c'est une stat qui sort.
Ouais, mais comme vous l'avez dit, je ne suis pas le joueur le plus rapide de l'effectif.
Et donc, du coup, malheureusement, ça vous a joué quelques tours parce qu'on vous a chambré derrière.
Ouais.
Malheureusement. C'est pas dans votre style de jeu, en
non,
tout cas.
Non, non, c'est pas de mes qualités premières.
Ouais. Alors en fait, oui, l'erreur, c'est que c'était pas 36, c'était 63 km.
En plus. Effectivement, bah, 63, ça fait vite hein, quand même sur un terrain. On peut envoyer des longs ballons en profondeur. Jouer bloc-bas et envoyer des longs ballons en profondeur, il n'y aura pas de problème pour aller marquer, pourquoi pas des buts. Après, évidemment, dans le football, il faut quand même des pieds. La vitesse, ça fait déjà une petite différence, mais il faut quand même des pieds pour pouvoir finaliser les actions. Voilà pour cette deuxième partie du Club Sans et Or. Merci Jean-Charles d'avoir été avec nous. Merci Lorenzo d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup Lorenzo.
On vous souhaite de passer un bon match, évidemment, pour la rencontre face à Concarneau. 15e journée de Ligue 2, on rappelle. Coup d'envoi 19h, prise d'antenne à partir de 18h45 dans l'intégrale Sans et Or.
Nous serons là.
Évidemment. Tenez, j'ai juste une petite chose à vous faire écouter.
C'est la question conne, réponse conne.
Oui, parce qu'on avait la deuxième version aussi, pourquoi pas, juste pour la question à la con de Jean-Charles Vire le jeu. Lorenzo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Belle soirée.
Bonne soirée.
Le club sans et or sur Totem.